Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être à l'écoute de Mélomanie, bienvenue aux fidèles et aux nouveaux auditeurs du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, cette fin d'hiver toute printanière est marquée par les concerts de la première édition des musicales franco-russes à Toulouse. Depuis l'ouverture de ce nouveau venu parmi les festivals toulousains le 22 février, de nombreux événements musicaux ont eu lieu, mais il en reste encore plusieurs et non des moindres. Les musicales franco-russes se terminent le 16 mars et nous allons consacrer l'essentiel de cette émission à leur programmation. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, l'invité d'honneur de ce numéro, Thierry Dargoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole et directeur des musicales franco-russes. Bienvenue à vous deux aussi et merci d'être au rendez-vous de Mélomanie. Avant de parler longuement des musicales franco-russes avec Thierry Dargoubet en seconde partie d'émission, nous allons d'abord revenir sur l'actualité musicale de la semaine passée en compagnie de Serge. Il y est d'ailleurs déjà question du russe le plus célèbre de Toulouse. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
L'autre grand événement de ce début mars, c'est Ariane Anaxos au théâtre du Capitole. La dernière de l'opéra de Richard Strauss a lieu ce dimanche 10 mars à 15h. Serge et moi, nous avons assisté à une des premières représentations, ce qui va nous permettre de comparer nos impressions concernant cette nouvelle production mise en scène par le fantasque et talentueux Michel Faux. Serge, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Ariane Anaxos au Capitole ?
Eh bien d'abord, c'est une œuvre rare, hein, qui n'a été donnée qu'une fois, il y a peut-être plus de 20 ans, à Toulouse, et c'était la création toulousaine, donc on remonte à très loin. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté théâtral de la production. Il s'agit d'une œuvre qui est un peu le reflet d'elle-même. C'est un peu le théâtre dans le théâtre.
Ah oui, si on veut employer un terme savant, on peut parler de mise en abîme.
Oui. Mais donc, c'était un vrai plaisir. Voilà, c'était une production qui fait plaisir, à la fois sur le plan musical et sur le plan théâtral. Alors, ce que l'on peut dire d'abord, on peut parler quand même de Michel Faux, puisque c'était une première, hein, pour lui, de mettre en scène une telle œuvre, un tel opéra de Richard Strauss, pas le plus donné d'ailleurs, hein. Et donc, ce qu'il a fait, et je trouve extrêmement intelligent, très théâtral, en ce sens qu'on assiste à une pièce de théâtre musicale. Il y a de la conversation musicale dans l'écriture de Strauss, évidemment, surtout dans la partie du prologue, hein, qui est la préparation du fameux opéra qui suit. Et donc, c'était d'une vie pétillante sur scène, avec des décors extrêmement intelligemment agencés, des costumes magnifiques, un éclairage très raffiné. Et donc, ben voilà, un vrai plaisir du début à la fin, un plaisir de l'œil et puis aussi de l'oreille, évidemment, puisqu'il y a eu quand même une très belle présentation à la fois vocale et instrumentale de l'œuvre.
Première partie avec beaucoup de mouvements, très foisonnante, avec des portes non pas qui claquent mais pas loin. Il y avait un petit côté Phédo, hein, c'était moi, effectivement, un aspect très théâtral. Souvent, on critique un peu, on reste sur notre faim sur la direction d'acteur. Là, franchement, on peut dire qu'il y avait une vraie direction d'acteur.
Ah, tout à fait. Avec à la fois des stéréotypes qui apparaissent, mais volontaires, évidemment. Dans, par exemple, la prima donna et le ténor, enfin, qui se comportent dans ce prologue de manière tout à fait caricaturale. Mais c'est dans l'œuvre, hein. Donc, finalement, Michel Faux n'a fait que mettre en lumière les éléments que Strauss et Hofmannsthal avaient combinés à tous les deux.
Donc, avec son imagination propre. Ah, donc, oui. Comme vous l'avez dit, deux niveaux sur scène.
Ça, formidable.
Et qui était au niveau le plus haut, premier étage ? Parce qu'il faut parler de ce personnage très important dans la première partie.
Oui. Un comédien, donc un rôle parlé, qui est celui du majordome, qui était joué par Florian Karov, qui en a fait des tonnes, mais il le fallait. Enfin, l'intervention du majordome, elle est déterminante dans ce prologue, hein, puisque c'est lui qui décide, enfin c'est son maître, disons, qui décide à travers lui que l'œuvre tragique et l'œuvre comique seront jouées en même temps, ce qui est une tragédie, on peut le dire, pour le compositeur. Donc, vraiment très intelligemment fait, très très bien monté.
Alors, vous avez parlé du compositeur.
Oui.
Il faut aussi qu'on parle de ce personnage qui n'intervient que lors de la première partie, même s'il revient à la toute fin de la seconde partie, donc de l'opéra.
Mais ça, c'est par la volonté de Michel Faux.
Absolument, c'est pas dans le...
C'est pas du tout écrit dans le livre.
Dans l'œuvre de Strauss. Anaïck Morel qui a interprété le rôle. Je l'ai trouvé formidable. Je crois que je n'ai pas été le seul.
Ah, tout à fait. C'est la révélation. Pour moi, j'ai eu deux révélations. Deux chanteuses que je n'avais jamais entendues en direct. Anaïck Morel et Catherine Hunold. Voilà. Deux grandes chanteuses qui se sont révélées.
Catherine Hunold qui joue le rôle titre, qui joue Ariane.
Qui joue Ariane et prima donna Ariane. Mais pour revenir à Anaïck Morel, elle crée un personnage. Hein, vraiment, on compatit avec elle au désastre qui lui arrive puisqu'elle prend très au sérieux sa tâche, sa mission de compositeur et donc ce qu'elle fait est magnifique. Vocalement, c'est très très beau aussi.
Hein. Vocalement, donc comédienne, moi j'ai trouvé très très bien.
Parfaite. Non, vraiment, c'est à mon avis la grande révélation de cette production.
D'autant plus qu'elle n'était pas prévue dans la distribution de départ.
Et non. Donc il y a eu pas mal d'événements malheureux avec des défections pour cette production, dont la défection pour le rôle du compositeur. Et c'est Anaïck Morel
qui a remplacé Stéphanie Doustra.
Qui a remplacé Stéphanie Doustra, qui était prévue initialement. Mais elle a fait ça magnifiquement. Vraiment un vrai personnage.
Alors, autre personnage très important, autant dans la première que la seconde partie, c'est Zerbinette.
Ah oui, Zerbinette, ah ben c'est un personnage auquel Strauss a réservé des chausse-trappes incroyables. Oui, ça c'est un rôle très difficile vocalement. Alors, elle était chantée par Elisabeth Stutfen, une soprano américaine. Donc, qui a des grandes qualités scéniques, qui est très vive.
Beaucoup de présence, beaucoup de charme.
Une présence, un charme, un art de jouer. Enfin,
bonne comédienne
elle
aussi.
Elle joue, une excellente comédienne.
Avec Morel. Moi,
j'ai pour ma part regretté un peu le manque de projection de son timbre.
Voilà.
Elle a un timbre un peu clair, enfin, mais comme soprano coloratour, c'est un peu normal, mais un peu lointain, quoi.
On en a parlé après la représentation. Effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de projection, évident, manque de projection vocale. On avait l'impression qu'elle chantait
de
au
loin.
Fond, vraiment au fond de la scène. Puis bon, ses aigus étaient parfois un peu crispés, un peu serrés.
Surtout le contre-mis, mais enfin, faut dire que bon, ça n'est pas du plus facile.
En revanche, bon, ce petit manque est largement compensé par ses grandes qualités, effectivement,
tout à fait,
de présence,
de
jeu sur scène.
Hein. Absolument, d'autant plus qu'elle était habillée de manière tout à fait fantastique.
Oui, les costumes étaient magnifiques.
Costumes splendides.
Autant que les décors.
Oui. Et dans cette première partie, il y a d'autres rôles qui étaient magnifiquement tenus, notamment celui du maître de musique par Werner van Mechelen, qui vraiment a fait une composition formidable, hein, à la fois complaisant avec les puissants et compréhensif avec
Il était vraiment dans le personnage.
Ah oui, un véritable personnage.
En plus, il est allemand, donc les problèmes de prononciation, on n'en parle pas.
Mais dans l'ensemble, vraiment,
c'était bien.
C'était très bien.
La prononciation d'allemand était...
Les dictions étaient très bonnes, vraiment très bien. Et tous les personnages secondaires, on ne va pas tous les citer, mais étaient très très bien tenus, depuis l'Arlequin de Philippe-Nicolas Martin.
C'est très bien d'avoir le 15 heures.
Excellent aussi. Et puis très bien, le maître à danser, j'ai beaucoup aimé aussi, qui était à la fois scéniquement désopilant et vocalement très très bien. Hein. Donc voilà, ça a été...
Alors, on a oublié de parler de Bacchus.
Ah oui, mais ça c'est... Oui,
important.
Alors d'abord c'est le ténor dans le prologue, hein, tout simplement. Alors qu'il est un personnage à la fois monumental physiquement, évidemment, puisqu'il est très grand et très fort... Et vocalement, impressionnant, parce que c'est une grande voix.
C'était Isacha Savage, chanteur américain.
Ténor américain, oui.
Effectivement, physique très imposant.
Ah oui, très imposant. Hein. Les deux personnages principaux, d'ailleurs, avaient les physiques tout à fait imposants. Hein.
Oui.
Mais ils savaient en jouer, hein, tous les deux. Hein. Donc, ça n'était jamais ridicule. Hein. C'était toujours très bien fait. Et dans l'opéra lui-même, alors, donc Ariane Anaxos, les deux personnages sont tout à fait assortis, vocalement et physiquement. Donc c'était une bonne combinaison. Là.
Il faut qu'on dise un mot de l'orchestre et de la direction d'Evan Register, puisque c'était lui qui œuvrait dans la fosse cette fois-ci.
Ah oui, alors là, c'est une œuvre un peu particulière. Hein, parce qu'après les déchaînements d'Electra, de Salomé, avec des effectifs pléthoriques à l'orchestre, là, c'est écrit pour 38 musiciens. Donc c'est un orchestre Mozart, hein, en fait, qui joue. Et je trouve que Evan Register a magnifiquement manœuvré au milieu de cet orchestre de solistes, en quelque sorte. Hein.
Oui,
c'est un peu l'impression que cela donne. Et il y a d'ailleurs des solos excellents encore, qui apparaît en hautbois. C'était très coloré, ce qu'il a fait. Il a très bien soutenu les
très
chanteurs,
précis,
sans jamais les dominer.
Oui, absolument.
Donc, c'est vraiment une performance qu'il a réalisée là. Et l'orchestre, évidemment, est à féliciter, là, en l'occurrence.
On sent et on sait qu'il y a eu une forte coopération, collaboration avec Michel Faux, ça se sentait, parce que le timing est excellent avec ce qui se passait sur scène, quand même.
Parfait. Et donc, je voudrais quand même revenir à Catherine Hunold, hein, qui est le rôle d'Ariane et de la prima donna. Mais dans Ariane, ses grandes imprécations, citation, ces grandes, cette nostalgie à la fois qu'elle met dans les grandes phrases, le legato qu'elle emploie, c'est très beau, c'est un très beau timbre en plus. Mais c'est une cantatrice, enfin, française, bien française, c'est je crois une des rares soprano dramatiques françaises, je ne sais pas s'il en existe une autre, hein. C'est une cantatrice qui quand même aborde les rôles de Brunhilde et d'Isolde.
Oui, moi je la découvrais à cette occasion.
Ah oui, oui, moi aussi, et vraiment...
Prise de rôle,
qu'elle a su tenir à la fois par le jeu et par, comment dire, l'adaptation vocale à ce rôle, parce qu'elle a beaucoup d'éclat dans la voix, mais elle sait la maîtriser et la moduler, donc c'était vraiment très très...
Gros volume vocal.
Un gros volume.
Comme il s'achasse avec, d'ailleurs.
Absolument, absolument.
Et le public était ravi à la fin.
Ravi, ovation à la fin, hein, pour l'ensemble de la distribution, y compris le chef d'orchestre. Hein. Dommage que Michel Faux ne soit pas venu saluer, je crois qu'il aurait eu lui aussi un grand succès.
Ben, sans doute reviendra-t-il pour la dernière dimanche.
Peut-être. Oui.
Justement, c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent. Il reste une représentation d'Ariane Anaxos au Théâtre du Capitole ce dimanche 10 mars à 15h. Et pour vous donner envie d'aller la voir, parce que nous avons affaire là à une œuvre et une production super, voici un extrait d'Ariane Anaxos, un air d'Ariane. Es gibt ein Reich, wo alles rein ist. Serge Chosy et Thierry Dargoubet ont reconnu très rapidement la grande Elisabeth Schwarzkopf dans cet extrait d'Ariane Anaxos. Es gibt ein Reich, wo alles rein ist, une version datant de 1955 sous la direction d'Herbert von Karajan. Et vous avez donc encore une représentation ce dimanche 10 mars à 15h au Théâtre du Capitole pour découvrir la très belle production mise en scène par Michel Faux sous la direction musicale d'Evan Register. Nous allons justement parler de direction d'orchestre maintenant, puisque dans le cadre des musicales franco-russes, dont le directeur artistique est un certain Tougan Sokiev, était organisée l'Académie internationale de direction d'orchestre, parrainée et dirigée par le directeur musical de l'Orchestre national du Capitole, un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Il y a donc eu, entre le 26 et le 28 février, des séances d'enseignement, pourrait-on dire, et un concert final en public, gratuit, avec l'Orchestre national du Capitole, dirigé lors de la première partie par les trois lauréats de l'Académie. Thierry Dargoubet, vous avez suivi ça forcément de près. Expliquez-nous un peu comment ça s'est déroulé.
En fait, la genèse de l'Académie, la genèse, elle est clairement exprimée parce que Tougan Sokiev, il y a maintenant quasi 4 années, nous avait convaincus de créer une classe de direction d'orchestre portée par l'orchestre. Donc c'était un effort considérable. Tougan Sokiev a invité Sabriye Bikirova, une élève comme Tougan Sokiev, d'Ilia Mouzine, donc il y a quelques années de cela, et toujours cette idée de monter quelque chose à Toulouse dans le cadre d'une transmission de la direction d'orchestre. Donc trois candidats ont émergé, qu'a choisi Tougan Sokiev et qu'ont choisi également Sabriye Bikirova. Un garçon qui est issu de, qui est d'ailleurs de Saint-Pétersbourg, Nikita, j'ai oublié son nom.
Sorokine,
qui lui-même donc travaille aujourd'hui avec Alain Altinoglou dans la classe de direction du CNSM, de Conservatoire National Supérieur de Paris. Bastien Pénas, qui lui est dans sa deuxième année de direction d'orchestre avec Sabriye Bikirova, donc
à l'ISDAT, donc
qui est donc porté financièrement par l'orchestre, mais porté administrativement et au niveau du travail quotidien par l'ISDAT. Et puis un troisième garçon qui a approché Tougan quand Tougan Sokiev dirigeait l'orchestre philharmonique de New York, donc un assistant qui venait de Pittsburgh, assistant du directeur musical de Pittsburgh. Donc, l'Américain Orl Lee, qui a 35 ans et qui connaît une certaine maturité dans le domaine de la direction d'orchestre. Un très jeune garçon, issu de Bordeaux, donc Bastien Pénas, qui travaille avec Samir Mirkiova. Et le troisième garçon, russe, qui travaille donc avec
Nikita Sorokine. Oui.
Et donc, Tougan Sokiev a pu travailler avec ces trois garçons, d'abord avec les deux pianos et ensuite avec le concours de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Et c'était évidemment absolument passionnant.
En public, donc vraiment, en public à la Logrin.
En tout cas, c'est une chance inouïe pour ces trois garçons. Donc l'idée de fond, évidemment, c'est de dire que ce n'est pas un projet one-shot. D'abord, c'est la troisième édition de cette académie. Et on espère que chaque année, en tout cas, on va essayer de trouver, si vous voulez, un moment dans le planning de Tougan Sokiev, de l'orchestre, des pianistes accompagnateurs, de continuer. Et puis surtout, on va essayer que cette classe de direction d'orchestre puisse continuer à se prolonger, parce que maintenant l'orchestre ne pourra malheureusement plus porter indéfiniment ce professeur de direction d'orchestre.
Mais apparemment, les musiciens de l'orchestre jouent vraiment le jeu.
Ah mais ils font plus que jouer le jeu, parce qu'ils découvrent, au travers l'enseignement de Tougan Sokiev, qui est Tougan Sokiev. Pourquoi il donne telle ou telle intention musicale. Voilà, et c'est d'ailleurs absolument extraordinaire, parce que moi je vois un nombre de musiciens qui viennent vers moi. Ah mais oui, mais on découvre le chef, on découvre le chef. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que le rêve de Tougan Sokiev, quelque part le nôtre aussi, c'est pourquoi ne pas envisager à terme une vraie classe de direction d'orchestre, comme ce qui se passait à Saint-Pétersbourg du temps d'Ilia Mouzine, maintenant c'est un peu différent, mais également en Finlande, à Helsinki et dans d'autres endroits, où il y a une pépinière extraordinaire de jeunes talents finlandais, et on en sait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel sera l'avenir de Tougan Sokiev à Toulouse, mais en tout cas, c'est sûr que dans 10 ans, il ne sera plus là, ça on peut le dire. Donc il faut trouver l'autre perle rare. Ouais. C'est malheureusement pas en France qu'il y a des classes de direction d'orchestre qui ont trouvé ces vrais moyens d'expression. Il y a un vrai travail à faire. Et ça, c'est dans le cadre, évidemment, de nos musicales franco-russes, auxquelles Tougan et moi-même sommes extrêmement attachés.
Alors, ça s'est terminé, donc, cette Académie internationale de direction d'orchestre par un concert en public le 28 février. L'Orchestre national du Capitole, dirigé dans la première partie du concert par les trois lauréats. Qu'est-ce qu'ils ont dirigé comme œuvre pour cette première partie ?
Alors, il y avait le premier mouvement de la 4e symphonie de Tchaïkovski, le premier mouvement de la 4e symphonie de Brahms, et le merveilleux prélude après-midi d'un faune que dirigeait justement Bastien Pénas et auquel Tougan Sokiev est extrêmement attaché.
Oui, alors, j'ai vu Nikita Sorokine, apparemment, a dirigé le premier mouvement de la 4e de Brahms, ça a commencé par ça. Ensuite, c'est Bastien Pénas qui a dirigé donc, le prélude de l'après-midi d'un faune. Le français a dirigé l'œuvre française, voilà. Et puis donc, Earl Lee, l'américain, qui a dirigé le premier mouvement de la 4e de Tchaïkovski. C'était pas du gâteau, quand même. Hein. Est-ce qu'il y avait un public nombreux ? Est-ce que les gens ont répondu présent pour assister ? C'était gratuit, en plus. Hein.
Oui, le concert était gratuit, mais on a même eu des problèmes, parce qu'on a fait beaucoup de mécontents, de gens qui n'ont pas pu venir. Donc, ce concert a été soutenu par la fondation La Dépêche, dont je salue Marie-France Baillet de la vieille ambiance, en tout cas, qu'elle apportait à nos musicales. Il y avait des étudiants, et puis ensuite, il y avait évidemment un public d'abonnés qui avait été invité par nos soins.
Et puis, seconde partie, alors là, c'est Tougan Sokiev qui a repris les rênes de son orchestre. Qu'est-ce qu'il nous a joué ? Alors, c'était russe qu'il a joué.
Voilà, c'était les steppes de l'Asie centrale et puis
L'oiseau de feu.
L'oiseau de feu, voilà le tube que l'on donne souvent en tournée.
Donc, seconde partie avec Tougan Sokiev à la baguette. Je crois qu'il a dirigé son baguette. Je dis à la baguette, mais il a dirigé son baguette avec des extraits
et
de...
Et quand il dirige son baguette, c'est signe qu'il a une confiance absolue en ses musiciens.
Ah bah on le saura aussi, ça va y aller.
Ah, très bien. On était c'est pas noté.
Donc, L'Oiseau de feu de Stravinsky est dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine. Voici un extrait de cette dernière œuvre, une version de l'Orchestre national du Capitole lors du concert du Nouvel An 2018, et c'était déjà sous la direction de Tougan Sokiev. Dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine, une version de l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev qui nous permet de terminer cette première partie d'émission avec un fort accent russe. Et nous allons garder l'accent russe lors de la seconde puisque nous allons largement la consacrer au musical franco-russe avec Thierry Dargoubet. On se retrouve après l'habituelle petite pause d'une minute. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Thierry Dargoubet, notre invité d'honneur, délégué général de l'Orchestre National du Capitole et directeur des musicales franco-russes.
Mélomanie, l'agenda.
La première édition des musicales franco-russes est donc en cours à Toulouse depuis le 22 février et la Damnation de Faust de Berlioz qui a ouvert le festival à la Halle au Grain. Après 2 semaines de programmation, il est possible de faire un premier bilan avec vous Thierry Dargoubet, puis de parler des événements programmés la semaine prochaine. Avant cela, pour ceux que le lancement d'un festival franco-russe à Toulouse a pu étonner, est-ce qu'on peut dire que c'était un rêve que caressait Tougan Sokiev depuis quelques années, rêve que vous avez fini par partager avec lui?
Vous avez tout à fait raison. Et en fait, ce rêve, ça fait un petit moment qu'il le portait. On peut dire quasiment 5 ans. Et puis, on discutait beaucoup. Donc je lui disais, mais Tougan, monter un festival, vous trouvez des millions et des millions d'euros. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile hein, de pouvoir faire naître quelque chose. Les collectivités locales ont maintenant quelques contraintes. Hein. C'est pas évident. Et finalement, l'idée, elle est venue naturellement. C'est en partageant, je dirais, en rencontrant des porteurs de projets, en rencontrant Franck Loiret de la Cinémathèque, en discutant avec Catherine Dargoubet. Bon, c'est pas très difficile pour moi, mais pour Tougan, c'était quand même autre chose. En discutant avec Christian Torel de la librairie en Maublanche, en rencontrant Jackie Ohayon du
Théâtre
Garonne, Christophe Risti, évidemment, du Théâtre du Capitole, et puis nombre de conférenciers, de personnes qui étaient attachées à imaginer quelque chose. Donc en fait, le thème a été immédiatement trouvé. C'était évidemment la thématique française et la thématique russe qui intéresse nos chefs d'orchestre. Et en même temps, on a eu la chance de rencontrer Hugues Malbert, qui est un membre du Dialogue de Trianon.
Oui, il faut dire ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas le Dialogue de Trianon.
Le Dialogue de Trianon, en fait, c'est l'émanation de la volonté politique de deux présidents, d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine, de réunir donc les sociétés civiles françaises et russes au travers d'échanges. Ce dialogue a été créé à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine à Versailles fin mai du mois de 2017. Puis voilà, on a rencontré donc plusieurs personnalités et immédiatement ont soutenu ce projet. Pas en le finançant, mais en le soutenant. Et donc, de fil en aiguille, on est allé voir la métropole. Et Marie Desquet, donc notre conseillère métropolitaine que je salue, puisqu'elle est vraiment au centre, je dirais, avec sa passion, son ambition pour l'orchestre, pour le théâtre, on a rencontré un écho très favorable. Et puis Jean-Luc Moudin nous a dit il faut y aller, c'est un projet qui est intéressant.
On va faire un premier bilan, là, au bout de deux semaines de cette première édition. Mais la suite, ça va être très vite. Il va falloir penser à la deuxième rapidement. Comment on peut l'envisager, la deuxième ? Est-ce que vous allez élargir la programmation ? Est-ce que vous allez impliquer d'autres partenaires culturels de Toulouse et peut-être même de la périphérie toulousaine ?
Tout est absolument ouvert. L'idée, c'est d'entamer un dialogue, évidemment, avec les structures culturelles toulousaines, mais pas simplement. Pourquoi ne pas entamer un dialogue avec les structures régionales, avec le Conseil régional d'Occitanie ? Il faut qu'évidemment, on trouve des moyens, je dirais, de notre développement. Donc, ça passera par, j'espère, un mécénat, enfin, des entreprises qui nous accompagnent. Ça, on va le savoir très rapidement. Pour l'instant, le bilan est extrêmement positif, puisque toutes les salles sont pleines, que ce soit au Théâtre Garonne, que ce soit à Saint-Pierre-des-Cuisines, que ce soit évidemment à la Hologramme, mais tout n'est pas terminé. On a encore trois soirées Bolshoï la semaine prochaine, ce qui était en fait un enjeu considérable, parce que proposer au public toulousain 6600 places en trois jours sur des thématiques quand même très fermées, fantastique, mais quand même, voilà. Donc tout ça n'est pas évident. Donc on tirera un bilan vraiment à la fin des musicales. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'on a rencontré un écho d'images, de presse nationale, locale bien sûr, mais absolument incroyable. Et que donc, en fait, tout ça nous donne des ailes et on espère évidemment transformer ce premier essai, cette première édition, en une magnifique deuxième édition. Mais l'avenir le dira.
Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années un événement, en quelque sorte, en miroir en Russie ?
C'est notre objectif. Encore une fois, ça fait partie d'un rêve un peu utopique. Mais si vraiment toutes les sociétés civiles françaises et russes sont en mouvement autour de notre projet culturel, musical, on peut dire oui. D'ores et déjà, on a des contacts à très très haut niveau en Russie pour nous accueillir. Bon, Tougan Tsokiev est quand même le directeur musical du Théâtre Bolshoï. Valérie Gergiev est le directeur du Théâtre Mariinsky, qui regarde avec énormément d'attention notre projet. Donc, tout est sur la table. Maintenant, on aura besoin de dialoguer, d'échanger. On verra bien.
Allez, on va revenir à l'édition en cours. Ces musicales franco-russes se poursuivent jusqu'au 16 mars avec ce qui est sans doute l'événement principal, central de la programmation, vous venez de l'évoquer, la venue du Bolshoï à Toulouse, l'orchestre et le chœur. Dans le sillage du directeur musical de cette illustre maison, Tougan Tsokiev, il va y avoir trois concerts les 13, 14 et 15 mars à la Lograin. Tous programmés dans le cadre, il faut le dire, de la saison des grands interprètes. Avant cela, ce dimanche 10 mars à 10h45, il y a un concert intitulé « Le front de l'aube ». Puis le lendemain, lundi 11 à 20h, un concert du duo Bertrand Chamaillou-Sol Gabetta. Les deux fois, ce sera là à Lograin. Un mot peut-être sur ces deux événements, Thierry Dargoubet. Le premier implique l'Orchestre National du Capitole et la Maîtrise de Toulouse.
Oui, ça c'est une autre idée, c'est-à-dire que c'est de mettre en miroir, je dirais, une compositrice française que nous aimons beaucoup, Edith Cana de Chidi, qui va en fait mettre en musique pour un orchestre son œuvre, donc le fond de l'œuvre, et puis surtout la venue pour la première fois dans le cadre de la programmation de l'orchestre de la maîtrise de Toulouse, qui est auréolée de tous les magnifiques prix qu'on connaît. Et donc je suis vraiment particulièrement heureux que ce concert ait pu prendre place, et également dans le cadre donc, d'un partenariat que j'ai oublié de signaler tout à l'heure, puisqu'il s'agit de partenariat avec le Conservatoire rayonnement régional.
Peut-être un mot sur la maîtrise.
Oui, la maîtrise donc est née ici à Toulouse, et elle est sous la direction de Marc Hopstadt, britannique, et donc on sait que l'Angleterre, c'est un peu la patrie des maîtrises.
Oui.
Hein. Donc maîtrise, c'est-à-dire des jeunes chanteurs. Hein. Et Marc Hopstadt a fait un travail extraordinaire en quelques années. Il a hissé cette maîtrise à un niveau tel qu'il y a des articles dithyrambiques dans la presse.
La presse
nationale et internationale. Oui, disons
que... Il était relais de tous les prix Bettencourt en particulier.
Oui, prix Bettencourt, qui est un prix prestigieux.
Et les un peu le prix Nobel de la musique en France.
Hein. Exactement. Et les enregistrements qu'ils ont réalisés ont tous été salués par la critique de manière très flatteuse. Hein. Donc c'est formidable que cette maîtrise... travaille avec l'Orchestre Capitole. Hein.
Et moi, j'attendais en fait l'événement, si vous voulez, qui permettait de les recevoir avec une grande dignité. Et c'était évidemment ces musicales franco-russes.
Ah oui,
on a
parfait.
Trouvé tout de suite un terrain d'entente magnifique. Et on espère évidemment qu'on pourra toujours collaborer avec Marc Hopstadt et Jean de Quint, que je salue.
Pour être complet, donc, je précise qu'il y aura aussi le baryton Vincent Bouchot, qui est de Toulouse d'ailleurs, qui sera présent lors de ce concert.
Et qui fait partie de l'ensemble Clément Jeannequin.
Oui, vous avez raison de le préciser. Ouais. Et puis, particularité, il va être dirigé par une femme, ce concert.
Exactement.
Une Australienne, Nathalie Murray-Bill.
Alors, ce n'est pas la première fois que l'orchestre va être dirigé par une femme. Ça n'a pas toujours été évident, mais j'espère que les musiciens seront très à l'écoute. Mais je sais que cette musicienne est une chef d'orchestre d'exception. Donc, je ne doute pas des bons résultats et de l'alchimie qui rentre les musiciens de l'orchestre et cette chef d'orchestre.
Insinueriez-vous que les musiciens de l'orchestre du Capitole sont un peu machos? Il y a beaucoup de femmes à l'orchestre, c'est pas possible.
Ah oui, ça maintenant, la proportion de femmes à l'orchestre a considérablement augmenté.
Oui, puisque maintenant il y a plus de femmes que d'hommes.
Et voilà.
Ce qui d'ailleurs nous pose des problèmes d'ordre technique, c'est qu'il faut maintenant déployer les foyers des femmes et rétrécir les foyers des hommes.
Ah bon, je plaisantais tout à l'heure, mais parfois les femmes sont plus dures pour une femme directeur d'orchestre que les hommes ne le sont, hein. Je le dis au passage. Alors, le programme de ce concert, le Front de l'Aube, donc il y a du Stravinsky, du Cizask, du Rachmaninov, du Arvo Pärt, du Patrick Burgan, autre compositeur installé à Toulouse.
Exactement.
Et puis donc, Edith Cana de Chidi, qui je crois est lyonnaise d'origine, avec cette œuvre qui donne le titre au concert, le Front de l'Aube. Alors, pour la petite histoire, hein, c'est une œuvre qu'elle avait créée en mémoire des soldats tombés en 1917 lors de la bataille du Chemin des Dames. Très belle œuvre. Donc j'espère que vous avez bien noté, c'est ce dimanche 10 mars à 10h45 à la Lograin. Et puis le lendemain, il va y encore y avoir un Toulousain sur la scène de la Lograin, Bertrand Chamaillou, avec sa vieille complice, non, ils sont très jeunes tous les deux, la violoncelliste Sol Gabetta, un duo qui se connaît mais depuis l'adolescence et qui est très lié.
Ah, tout à fait, ils sont d'ailleurs nés tous les deux la même année, 1981. Pour Bertrand Chamaillou, il est né à Toulouse et Sol Gabetta est né à Cordoba, en Argentine. Donc, assez
loin. Les Suisses et Argentine.
Voilà, oui. Et donc, ils se connaissent depuis leur enfance, en quelque sorte. Donc, il y a une complicité entre eux qui est incomparable. Ils n'ont pas besoin de se parler pour jouer de la musique. Enfin,
on a d'ailleurs donné le libellé Accord Parfait pour ce concert.
Oui.
Parce qu'on pensait effectivement à la relation magnifique
entre ces deux musiciens. Une relation formidable. Et donc, ils viennent à la Lograin ce lundi 11 mars pour jouer trois œuvres, trois grandes sonates pour violoncelle et piano. La première sera celle que Debussy a écrite en quelques jours d'ailleurs, entre la fin juillet et le début août 1915. Ça fait partie des dernières œuvres de Claude Debussy, puisqu'il avait prévu de composer six sonates pour divers instruments. Il n'en a composé que trois, il n'a pas pu aller au-delà, puisqu'il est mort d'un cancer, donc assez rapidement. Ça, c'est la première des sonates qu'ils vont jouer. Ensuite, ce sera la sonate de Poulenc. Alors Poulenc, lui, a esquissé sa sonate à Brive-la-Gaillarde en 1940. Il s'était réfugié à Brive à la suite de sa démobilisation pendant la guerre, donc. Et il l'a remanié, sa sonate, et donc c'est une œuvre magnifique dans le style Poulenc, moine et voyou, un peu comme on connaît Poulenc. Hein. Et enfin, en deuxième partie, les deux jeunes musiciens joueront la magnifique sonate composée en 1901 par Sergueï Rachmaninov, sonate qu'il avait composée peu après son concerto numéro 2, et il se remettait là de sa profonde dépression, la dépression qui avait suivi l'échec de sa première symphonie. Donc, trois grandes sonates jouées par nos deux complices.
Et un programme franco-russe.
Et oui, comme par hasard.
En fait, ça a été l'objet d'une grande discussion entre Saul, Bertrand et moi-même pour justement aboutir à un programme franco-russe. Et oui. Là, il n'y avait pas le choix. Donc, on est dans une thématique, au fond, difficile hein, d'ailleurs, oui, à mettre en œuvre. Mais donc, voilà, on a un programme magnifique qui, j'espère, sera servi magnifiquement donc, lundi soir.
Alors, moi, je ne vais pas diffuser un extrait franco-russe, mais un extrait franco-polonais. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques années, le duo Bertrand Chamaillou-Saul Gavetta avait fait paraître un très joli album Chopin. Peut-être que ça vous dit quelque chose, Fer. Et je vous propose d'en écouter un extrait avec le Nocturne Opus 15, numéro 1 de Frédéric Chopin. Le Nocturne Opus 15, numéro 1 de Frédéric Chopin, interprété par le duo Bertrand Chamaillou-Saul Gavetta, un extrait de leur album Chopin paru il y a quelques années et lors de leur concert du lundi 11 mars à 20h à la Lograin, pas de Chopin en programme, mais des œuvres de Claude Debussy, Francis Poulenc et Serge Rachmaninov. Nous en arrivons à la trilogie Bolchoï de cette première édition des musicales franco-russes. Ces trois concerts de prestige à la Halograin les 13, 14 et 15 mars. Certainement les événements les plus attendus du festival, en tout cas des mélomanes. Le premier d'entre eux a donc lieu mercredi 13 mars à 20h. Et c'est le chœur du théâtre Bolchoï qui s'y produit seul sous la direction de Valérie Borisov. Quel programme vont-ils interpréter, Thierry Dargoubet ?
Alors d'abord, Valéry Borisov, c'est un chef de chœur que j'ai connu quand je collaborais avec le théâtre Mariinsky il y a plus de 20 ans. C'était le chef de chœur de Valéry Gergiev. Et puis finalement, voilà, il a...
Il a émigré à Moscou.
J'allais dire, il est passé à l'ennemi.
Il est passé voir de nouveaux amis.
D'accord.
Non, c'est un programme, donc on entendra des œuvres de Tchaïkovski, de Rachmaninov, et je pense quelques autres surprises, avec des chants liturgiques. C'est d'ailleurs un concert qui reçoit actuellement un succès populaire assez incroyable, et je discutais avec la billetterie des grands interprètes qui me disait, oui, ce concert, c'est un tout nouveau public qui vient... Pas forcément des mélomanes, mais ils ont dit c'est le Bolchoï, donc ça doit être formidable.
C'est les grandes voies russes,
c'est cette espèce d'imagerie absolument incroyable.
Oui. C'est combien de chanteurs le chœur du Bolchoï ?
Ils viendront à 90.
Sous la direction
d'Alain Bourgeois. Parfois, c'est 160, c'est 180 chanteurs.
Voilà, chants liturgiques et chansons populaires russes, Tchaïkovski, Rachmaninov et sans doute d'autres choses. Les chansons profanes, les chants rituels orthodoxes, la Russie profane et la Sainte Russie. Le lendemain, jeudi 14 mars à 20h, une œuvre qu'on n'entend pas tous les jours en concert, La Dame de Pique de Tchaïkovski, un des compositeurs de référence de Tougan-Sokiev. Serge, vous pouvez peut-être nous dire un mot sur un des opéras les plus connus de Tchaïkovski, inspiré d'une nouvelle d'Alexandre Pouchkine et qui nécessite, c'est le moins qu'on puisse dire, un gros effectif, qu'il soit instrumental ou vocal, le chœur, et puis pas moins de 13 chanteurs solistes, c'est ça ?
Mais oui. C'est une œuvre un peu mystérieuse. La Dame de Pique avec tout ce qui tourne autour d'une fameuse martingale, donc un jeu de cartes qui permet de gagner. Et donc il y a des rôles absolument déterminants, comme le rôle d'Hermann, ténor, qui sera là tenu par Oleg Dolgov, et puis la jeune Lisa, qui sera chantée par Anna Nachaeva. Et puis il y a la fameuse comtesse, hein, celle que l'on baptise la Dame de Pique, et qui sera ici chantée par Elena Manistina. Donc, trois rôles essentiels, plus des tas d'autres rôles très importants. Et donc, c'est un opéra très fort, qu'on a déjà vu à Toulouse, hein, en version scénique, hein, mais un opéra rare.
Mais pas par le Bolchoï.
Ah non, pas par le Bolchoï, non.
Mais qui était déjà dirigé par Tougan-Sokiev.
Oui,
à cette époque, dans une production de... J'ai oublié son nom. C'était le premier opéra que dirigeait Tougan-Sokiev dans la fosse du théâtre du Capitole. Mais cet ouvrage a déjà été donné par Valéry Gergiev il y a de nombreuses années à Toulouse, avec les forces du théâtre Mariinsky. Et pour la petite histoire, au mois de mars dernier, nous étions avec mon épouse au Bolchoï, à Moscou. On a entendu cette Dame de Pique. Bon, alors évidemment, version scénique, avec quasiment la même distribution, et on a eu de cesse de convaincre Tougan-Sokiev de venir diriger cette œuvre en version concert, parce que c'est une œuvre que la version concert, finalement, c'est tout à fait possible. Il y a une histoire incroyable et qui tient en haleine le mélomane, oui, l'auditeur. Hein.
Et puis là, ça sera d'autant plus aisé pour le public de suivre qu'il est prévu un surtitrage, d'après ce que
Oui, il y aura évidemment, ça sera surtitré, mais c'est un opéra de chef aussi. Et je dois dire, l'énergie, la tension qu'on a entendu Tougan mettre dans cette œuvre, donc je vous dis, il y a environ 12 mois, était tellement stupéfiante. Enfin, nous, on avait la chair de poule. J'espère que les auditeurs toulousains pourront également retrouver la chair de poule de l'audition de cette œuvre.
L'orchestre du Bolchoï, c'est combien de musiciens ?
L'orchestre du Bolchoï, c'est 300 musiciens.
Oui, bon, mais ils ne vont pas venir à 300.
Non. C'est en fait, parce que l'orchestre du Bolchoï, c'est à la fois le ballet, c'est l'opéra.
Oui.
Il y a deux grandes scènes, et parfois, deux grandes scènes, une petite scène. C'est un peu comme le théâtre Mariinsky, ou tout simplement l'opéra de Paris, avec l'orchestre bleu et l'orchestre vert. Et donc là, il y aura 90 musiciens.
90 musiciens, le chœur, 13 solistes, ça va faire du monde sur le plateau de la Halle au Grain. Mais il faut ça, parce que la Dame de Pique, c'est une œuvre colossale. Il y a beaucoup d'extraits possibles pour vous en donner un aperçu. J'ai choisi de vous faire écouter le chœur des promeneurs que l'on entend dans le premier tableau de l'acte 1.
Thank you.
le tonitruant chœur des promeneurs, extrait du premier tableau de l'acte 1 de la Dame de Pique, interprété par l'orchestre et le chœur du Bolchoï. L'opéra de Tchaïkovski sera donné en version concert par ces mêmes orchestres et chœur du Bolchoï, avec 13 chanteurs solistes, jeudi 14 mars à 20h à la Halle au Grain, sous la direction, bien sûr, de Tougan Sokiev. Et nous allons retrouver les mêmes, à quelques exceptions près concernant les chanteurs solistes, le lendemain, vendredi 15 mars, toujours à 20h à la Halle au Grain, pour la version concert d'un autre opéra célèbre du répertoire russe, Ivan le Terrible de Rimsky-Korsakov. Et je précise bien de Rimsky-Korsakov parce qu'il existe une autre œuvre portant le même titre, mais il s'agit d'une musique composée par Sergei Prokofiev pour le film éponyme d'Eisenstein, une merveille d'ailleurs. J'en reviens donc à l'opéra de Rimsky-Korsakov, autre œuvre grandiose à gros effectifs, consacré au premier tsar de toutes les Russies, qui a régné lors de la seconde moitié du XVIe siècle, œuvre à la démesure du souverain auquel elle se réfère, avec là encore 12 chanteurs solistes, une œuvre également connue sous un autre nom, Serge Chosy, et vous allez le prononcer très facilement parce que votre russe est impeccable.
Oui, c'est ça. Oui. En fait, le titre original de l'œuvre, c'est pas du tout Ivan le Terrible, on l'appelait Ivan le Terrible en France, parce que le titre original, c'est la Pskovitaine, c'est-à-dire la jeune fille de Pskov.
Bravo.
La ville de Pskov qu'Ivan le Terrible essaie de conquérir. Donc, effectivement, en français, parler de la Pskovitaine, c'est difficile. Hein. Donc, on a choisi de lui donner le nom du héros principal, qui est Ivan le Terrible, et qui découvre au cours de cet opéra qu'il a une fille. Et alors, il découvre l'existence de cette fille. Donc, c'est un opéra qui a fait la gloire du grand Fédor Tchaliapine au début du siècle, du XXe siècle. Hein. Donc, c'est vraiment un opéra de basse. Hein. Donc, là, on va, je crois, prendre
pour un personnage terrible, il fallait une basse, évidemment.
Ah oui, 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 bien sûr.
Et je peux vous dire que l'interprète de ce rôle, nous avons déjà écouté à plusieurs reprises, à Moscou, sera fantastique. Hein.
C'est Stanislas Trofimov.
Absolument.
Voilà, qui chante le rôle principal d'Ivan. Et Dinara Alieva qui chante Olga. Sa fille donc, mais au début on ne le sait pas, donc on le découvre en cours d'opéra. Donc c'est là aussi une découverte, je pense que ça n'a jamais...
C'est une première à Toulouse vraiment.
Oh oui, oui, vraisemblablement, oui, oui, absolument. Hein. Donc là vraiment c'est le plaisir de la découverte qui s'ajoute au plaisir d'entendre une œuvre russe par des Russes, avec tout ce que ça réclame de beauté, de timbre et de d'implication historique.
Est-ce que c'est Tougan Sokiev qui a tenu à ce que cette œuvre soit programmée là pour la venue du Bolchoï?
En fait, il y a eu un vrai dialogue. Il tenait absolument à cette œuvre. Et puis, moi, je tenais également un ouvrage de Tchaïkovski, soit Eugène Onéguine, soit La Dame de Pique, parce que c'est un interprète de la musique de Tchaïkovski fascinant. Enfin, on l'entend régulièrement dans les symphonies de Tchaïkovski. C'est tout l'art de Tougan Sokiev et surtout de ce qu'il est en train de faire au Bolchoï, parce que ça, on ne l'a pas vraiment dit. Bolchoï était connu plutôt ces dernières années pour l'extrême qualité de son
ballet,
mais pas vraiment pour, la composition des équipes musicales, de l'opéra, si vous voulez. Et là, en fait... tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un travail considérable qui est en train d'être effectué donc par Tougan Sokiev et ses équipes au Bolchoï. Ça fait maintenant 5 ans qu'il le met en œuvre et c'est le moment maintenant de l'entendre à l'Occident, donc à Paris et à Toulouse, donc dans le cadre de nos Franco-Russes.
Eh bien, pour vous donner un avant-goût de cette œuvre immense qui est Ivan le Terrible, voici son ouverture très belle que je vous propose tout de suite d'écouter. Thank you. l'ouverture d'Ivan le Terrible, opéra de Rimsky-Korsakov, que vous pourrez donc découvrir en version concert vendredi 15 mars à 20h à la Halle au Grain, avec l'orchestre et le chœur du Bolchoï, ainsi que 12 chanteurs solistes sous la direction de Tougan Sokiev. Et les musicales franco-russes vont se terminer samedi 16 mars à 18h, encore à la Halle au Grain, et vous avez choisi de les clôturer avec un ciné-concert, Thierry Dargoubet. Est-ce que c'est une première à la Halle au Grain, un ciné-concert avec l'Orchestre National du Capitole, s'il vous plaît?
Alors, c'est pas tout à fait une première, mais on peut dire que c'est quand même quasiment une première, parce que les derniers ciné-concerts qui ont été donnés par l'orchestre étaient dirigés par Stéphane Cardon il y a cela quasiment une vingtaine d'années. En fait, la Halle au Grain n'est pas une salle vraiment complètement adaptée, puisqu'elle est de forme hexagonale, et on sait que quand on projette, il y a la moitié, voire les deux tiers du public qui ne peuvent pas voir ce qui se passe sur l'écran. Mais on a quand même pris la décision de projeter, donc pas pour un petit millier de personnes. En fait, c'est Franck Loiret, directeur général de la Cinémathèque, qui nous a dit, voilà, on va sortir du fond de la Cinémathèque, La Nouvelle Babylone, qui retrace un peu l'histoire de la Commune de Paris. Et donc, c'est sur une musique de Shostakovich, et c'est un jeune chef anglais qui va diriger le...
Duncan Ward.
Voilà, qui a fait de beaux débuts en Angleterre, qui a dirigé l'Orchestre de Paris à plusieurs reprises. Donc, c'est pour nous un vrai enjeu à la fois technique et musical.
Oui, parce que ça nécessite une configuration particulière, évidemment. Voilà.
Et puis également aussi un enjeu sur le public, parce qu'on ne sait pas du tout si le public va être là ou pas là.
S'il va répondre. c'est une curiosité.
Nous le saurons le 16 mars au soir.
Voilà, 16 mars à 18h à la Halle au Grain, clôture des musicales franco-russes avec La Nouvelle Babylone de Grigori Kosintsev et Léonie Trauberg, film muet tourné en 1929, issu des collections de la Cinémathèque de Toulouse. Il nous reste un peu de temps, Serge Chosy. Est-ce que vous pouvez nous présenter le prochain concert des Arts Renaissants qui va être donné lundi 11 mars à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est le grand pianiste Roger Muraro qui s'y produit avec une violoniste, un violoncelliste et un clarinettiste. Quel programme vont-ils jouer?
Alors, c'est un programme tout à fait intéressant qui est autour d'une œuvre de Olivier Messiaen, le Quatuor pour la fin du temps. Voilà pourquoi, autour du pianiste, il y a la violoniste Fanny Robillard, le violoncelliste Raphaël Perrault et le clarinettiste Patrick Messina. Alors, cette association piano, violon, violoncelle, Et clarinette, c'est plutôt rare. Hein. Alors c'est effectivement la composition de l'ensemble qui joue ce fameux quatuor pour la fin du temps que Olivier Messiaen a composé et dont il a donné la première exécution alors qu'il était prisonnier en camp en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1940,
donc c'est vraiment une œuvre très particulière. Et donc on est vraiment très heureux de pouvoir découvrir ou redécouvrir cette œuvre magnifique.
C'est un des grands chefs-d'œuvre de la musique du XXe siècle.
Oui, la musique... sacrée en quelque sorte, puisque en 8 mouvements, elle évoque toutes les obsessions spirituelles d'Olivier Messiaen, qui d'ailleurs a été le professeur de Roger Muraro. Hein, Roger, oui. Et Roger Muraro, en fait, a d'abord été l'élève de Yvonne Loriot, Madame Messiaen, à la ville. Et donc, il y a une
filiation.
Hein. Ah oui, une filiation absolue. Et alors, avant ce quatuor pour la fin du temps, les musiciens vont jouer en alternance la sonate pour violon et piano de Debussy, puis les trois fantaisies Stuck pour clarinette et piano de Schumann, et enfin l'élégie pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré. Et donc, les quatre ne se retrouvent que dans le quatuor pour la fin du temps.
Magnifique programme, et eh bien c'est la fin de ce numéro de Mélomanie. Un grand merci à Serge Chosy d'y avoir participé et de l'avoir animé à mes côtés. Tous mes remerciements également à Thierry Dargoubet d'en avoir été l'invité d'honneur. Alors que les musicales franco-russes battent leur plein à Toulouse, et ce encore jusqu'au samedi 16 mars, je rappelle donc les nombreux rendez-vous et les événements que propose ce festival. Tout d'abord le concert Le Front de l'Aube de l'Orchestre National du Capitole et de la Maîtrise de Toulouse, ce dimanche 10 mars à 10h45 à la Halle au Grain, avec également le baryton Vincent Bouchot. Le lendemain, au même endroit, 20h, concerto du duo Bertrand Chamaillou-Sol Gabetta, avec un programme d'œuvres de Debussy, Poulenc et Rachmaninov. Mercredi 13 mars à 20h, concert du chœur du Bolchoï, qui va interpréter des chants liturgiques et des chansons populaires russes de Tchaïkovski, Rachmaninov et quelques autres. Jeudi 14 mars à 20h, l'orchestre et le chœur du Bolchoï, cette fois-ci, vont accompagner 13 chanteurs solistes pour une version concert de La Dame de Pique, l'opéra de Tchaïkovski, sous la direction de Tougan Sokiev. Vendredi 15 mars à 20h, même endroit, ces mêmes orchestres et chœurs du Bolchoï accompagnent cette fois-ci 12 chanteurs solistes pour une version concert d'Ivan le Terrible, opéra de Rimsky-Korsakov. C'est encore sous la direction de Tougan Sokiev. Ces trois concerts ont donc lieu à la Halle au Grain. où un ciné-concert va clôturer les musicales franco-russes samedi 16 mars à 18h avec la projection du film La Nouvelle Babylone, accompagnée de la musique originale de Dimitri Shostakovich, interprétée par l'Orchestre du Capitole. Vous trouverez toutes les informations pour les concerts des musicales franco-russes et vous pourrez réserver vos places sur le site des grands interprètes d'une part, www.grandsinterprètes.com, ou sur celui de l'Orchestre du Capitole, www.onct.toulouse.fr. Notez d'autre part que les concerts suivants ont lieu également la semaine prochaine, celui donc du pianiste Roger Muraro et de ses trois complices à Saint-Pierre-des-Cuisines, lundi 11 mars à 20h30, c'est pour le compte de la saison des Arts Renaissants. Détails du programme et réservations sur le site www.art-renaissant.fr, et celui donc d'un autre pianiste, Philippe Cassard, mardi 12 mars encore à 20h30, et également à Saint-Pierre-des-Cuisines, où il va jouer un programme de sonates de Schubert. Renseignements et réservations sur le site de la Saison Bleue, www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Et je rappelle enfin que la dernière représentation d'Ariane Anaxos, l'opéra de Richard Strauss, est donnée ce dimanche 10 mars à 15h au Théâtre du Capitole. Il reste des places, alors profitez-en. Vous pouvez trouver tous les renseignements et faire vos réservations sur le site www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Allez au concert, allez à l'opéra, vous passerez une excellente semaine musicale. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite.